Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 870 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le château Palvier à Cayac, le vignoble de Seyssel en Haute-Savoie, un zoom sur l'eau de Castalli et puis on parlera également, peut-on décrire le style d'une appellation en général? À mes côtés, Florence Corbalan, bonjour Florence.
Bonjour Alain.
Ainsi que David Cobold et Philippe Aubrac, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
David Cobold, on commence par vous, le vidéo quiz est à l'honneur de InVideo Sud Radio maintenant.
Chaque semaine, avec une question, nous posons une question et ça vous permet, si vous êtes tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses, un excellent cadeau. Cette semaine, le cadeau serait le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Vous en avez de la chance, hein. Alors, la question de la semaine dernière fut, quel événement a été organisé par les domaines qui montent le mois dernier? Option A, le duo perdant, option B, le 15 gagnant, et C, les indestructibles.
Et la bonne réponse, David, est...
Le 15. C'est la saison des 15.
C'est la saison des 15. Cette semaine, David.
Alors, nouvelle question. Que vend Thibault Lamarque avec sa marque Castelli? Alors, les fontaines A, champagne, B, vinaigre, C, eau. Et pour répondre et gagner ce numéro de magazine Planète Vin et Spiritueux, le rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort. Je vous signale que la première réponse n'est pas complètement idiote, parce que le champagne, dans la légende sur la maison Pommery, on disait que Louise, veuve Pommery, avait installé dans la maison qui était sa maison, qui est maintenant le grand restaurant Les Crayats à Reims, en face des caves Pommery, une fontaine à champagne avec des robinets en argent
ou en or, on ne sait plus.
D'ailleurs, je n'y étais pas, c'était au siècle dernier. En ouvrant ces robinets, on remplaçait sa coupe ou son verre de champagne.
C'est très élégant, cette visite.
C'est chic, hein.
Alors, une vidéo Sud Radio accueille quelqu'un qui est très chic aussi, Jérôme Bézios, vigneron au château Palvier. Bonjour Jérôme.
Bonjour Alain.
Alors, on prépare, la vigne, elle a été créée à Gaillac il y a combien de temps là? C'est pas récent cette histoire, hein?
Oui, on dit souvent que le vignoble de Gaillac est millénaire, mais en fait, on a la chance d'avoir trouvé des petits pépins de raisin sur Montance il y a 2000 ans.
Donc, 2000 ans.
On est sûr qu'il y avait une activité et des vignes sur Gaillac il y a déjà 2000 ans.
Florence.
Alors, vous êtes vigneron indépendant sur deux domaines. Expliquez-nous cette particularité à la fois du domaine, parce que c'est un domaine et deux types de sol, et ensuite au niveau des cépages, parce que je crois que vous affectionnez tout particulièrement les cépages anciens.
Alors, si vous voulez, en fait, le domaine familial était sur Montance, rive gauche du Tarn. Et en 99, on a choisi de se développer de l'autre côté, à Cahuzac-sur-Vert, entre Gaillac et Cordes, sur un terroir argilo-calcaire. Donc, on a aujourd'hui 52 hectares qui sont divisés sur Montance et Cahuzac-sur-Vert.
52 hectares plantés, vous dites?
Oui.
C'est
oui,
grand, hein?
Tout en haut, c'est Gaillac. Et donc, sur Cahuzac, le domaine s'appelle Château Palvier.
Très bien. Donc, Château Palvier et Domaine de la Croix. Vous pratiquez peu les assemblages, je crois, pour les rouges. Pourquoi?
Alors, si vous voulez, on travaille beaucoup avec le cépage brocol et le cépage syrah, puisqu'en fait, c'est deux cépages qui concentrent très, très bien, où on peut avoir à la fois beaucoup de caractère avec de très jolis tanins et mettre en avant notre terroir.
Et quels sont les cépages anciens que vous cultivez?
Alors en fait, on travaille uniquement en AOC, uniquement avec des cépages anciens. Donc sur les rouges, on travaille particulièrement le cépage Duras, le cépage Brocol, et on vient de replanter un tout petit peu de Prunelard.
Prunelard, c'est joli ça.
Un cépage a disparu, et il y en a aujourd'hui à peu près 25 hectares de replantés sur toute l'appellation Gaillac.
Et comment dit-on en occitan, loin de l'œil?
L'Indelel.
Voilà.
Oh, David Cobold, le Prunelard, vous aimez, vous?
Oui, j'adore le Prunelard. Et il faut quand même tirer notre chapeau collectif à Robert Plagiol, qui a sauvé ce cépage et qui est sur le même secteur que vous, à Cahuzac.
On est tout à fait voisins avec son fils Bernard Plagiol. On a pas mal de vignes qui touchent, oui, tout à fait.
Mm. Et parlez-nous un petit peu de votre vignoble. Il a été labellisé en Terra Vitis. En quelle année?
Donc on a une démarche très entreprenante au niveau de l'environnement. Mmh. Et puis on s'est labellisé Terra Vitis il y a maintenant 7-8 ans. Donc c'est une démarche qui est très prenante, puisqu'en fait on s'engage pour le respect de l'environnement, bien sûr, mais aussi la pérennité de l'entreprise. Puisqu'en fait il faut voir comment on peut innover chaque année au niveau du cahier des charges en étant en adéquation avec la recherche. Mais ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est de développer un maximum cette biodiversité dans les sols qui va nous amener tout un tas de transformations pour que la vigne ait un maximum ce goût de terroir.
Donc ça veut dire, Jérôme, vous produisez combien de bouteilles toutes couleurs et qualités confondues chaque année ?
Donc notre domaine, on travaille avec des tout petits rendements, hein, oui. Puisque la moyenne de toutes nos cuvées se situe autour de 45 hectolitres par hectare.
D'accord.
Et on va produire autour de 200 000 bouteilles par an.
200 000 bouteilles par an. Il y a un élément important dans les bouteilles quand le consommateur achète, c'est la partie bouchage. Vous bouchez comment vos bouteilles ?
Alors en fait, quand je me suis installé il y a une vingtaine d'années, on avait de temps en temps nos clients qui nous appelaient parce qu'ils avaient un goût de bouchon.
C'est agaçant ça, hein. C'est très agaçant.
Aujourd'hui, en fait, on a choisi une solution sécurisée. Depuis 10 ans maintenant, on travaille en exclusivité avec Diam Bouchage sur l'ensemble de notre gamme.
Et là, ça n'arrive plus, quoi. Ça n'arrive plus, quoi. Florence, vous avez dégusté toute la gamme de Jérôme, en toute modération, bien sûr. Et vous avez eu un coup de cœur.
Un coup de cœur véritable pour la cuvée Intime 2015, qui est un AOC Gaillac avec un assemblage de Syrah et de Brocol. Donc, tout à l'heure... En pensant à ce vigneron, je me disais qu'effectivement, on parlait de vignes du Château Palvier qui ont une cinquantaine d'années et qui produisent des vins plutôt puissants et riches. Alors, effectivement, moi qui aime bien les vins de caractère, bien trempé, je n'ai pas été déçue parce que déjà au nez, je sentais qu'il avait du répondant, de la puissance, avec des arômes de fruits noirs confits, des épices. Il avait même un côté légèrement animal. La bouche est très agréable, tout en rondeur. J'ai retrouvé les fruits noirs, bien sûr, une pointe de vanille et pas mal de réglisse. Et la puissance est là, hein, c'est un vin corsé, mais avec des tanins qui sont bien fondus. Et le tout se termine sur une jolie fraîcheur. Et surtout sur une belle persistance aromatique et gustative.
Donc coup de cœur. Hein.
Voilà,
gros le coup prix, de cœur. Florence, ou alors Jérôme, il coûte combien le vin ?
19,50 je crois.
19,50 à la propriété du parc domaine, oui.
On ne va pas louper, c'est le coup de cœur. Merci beaucoup Jérôme, merci également à vous Florence. In Vino Sud Radio retrouve à présent Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, qui nous prend de la hauteur avec tout. Hein. Grâce à vous, on prend de la hauteur. Direction la Haute-Savoie.
La Haute-Savoie, et le vignoble de Seyssel.
Seyssel,
S-E-Y-2-S-E-L. Ah, oui. C'est un vignoble qui est un vignoble intéressant parce que c'est un vignoble historique. Alors, on vient d'évoquer 2000 ans d'histoire pour Gaillac, c'est à peu près la même chose au niveau de ce vignoble savoyard. Pline l'Ancien évoquait déjà d'ailleurs dans ses écrits ce vignoble-là qui était déjà réputé à l'époque. On parlait de secteur de Biturica Allobrogia, qui était le nom de l'époque. Effectivement, les Allobroges étaient un peuple effectivement qui vivait exactement dans cette région, entre la Savoie, le nord de l'Isère, le nord
c'est
de la
toujours
vallée du
Rhône. Le nom donné à la hymne des Savoyards.
Ah, exactement. Très bien, ça. Il n'y a pas d'anglais à l'époque.
Mais j'ai vécu là-bas pendant 18 mois.
C'est vrai. Il y a l'hymne savoyard qui... Et puis, il y a même une appellation qui s'appelle... À l'Aubroche d'ailleurs, qui est au nord effectivement de la Drôme, de confluent de l'Isère et de la Savoie. Pour revenir à cette appellation, c'est une appellation donc ancienne, vous l'avez compris. C'est la plus ancienne appellation savoyarde, 1942. Et c'est pas nécessairement la plus connue, d'abord parce qu'elle est toute petite, ça fait une centaine d'hectares, qu'elle est à la limite de la Savoie et de l'Ain. Sur le vignoble un peu du Bugey d'un côté et le vignoble savoyard de l'autre, et que c'est une appellation qui ne produit que du vin blanc.
D'accord.
Mais deux types de vin blanc, c'est assez intéressant pour ça d'ailleurs. Du vin blanc sec et tranquille, traditionnel, qui est élaboré à partir d'un cépage qui s'appelle l'Altesse. C'est un joli nom, qui est très joli pour un cépage, qui est finalement
nous,
le nom local.
Notre princesse, c'est Florence.
Exactement.
Et une Altesse dans le vin.
Nous sommes gâtés. Et c'est le nom local de notre cépage qu'on trouve pas mal en Savoie, qui s'appelle la Roussette. Qui donne des vins assez aromatiques, dans lesquels on va retrouver d'ailleurs des arômes qui font penser parfois au vionnier, comme la violette, mais avec des parfums qui, au-delà de ce marqueur aromatique particulier, évoquent aussi de temps en temps l'iris. Alors il paraît qu'il y avait des iris pendant très longtemps plantés dans cette région, et qui s'en servaient d'extrait pour les parfumeurs, notamment ceux du sud de la France et ceux de Grasse en particulier. Peut-être que par les racines, l'atmosphère s'est imprégnée, j'allais dire, c'est peut-être l'effet du terroir, est-ce qu'on peut dire ça, monsieur de Cobold ?
Monsieur Cobold.
En tout cas, le territoire est assez particulier pour ça.
Territoire.
Et dans ce territoire-là particulier, effectivement, on va trouver d'autres types de parfums également, avec des expressions marquées de parfois d'épices, avec l'ancien point un peu d'âge. Enfin, c'est assez intéressant, mais c'est plutôt le floral qui est vraiment original. C'est vrai que la combinaison iris et violette, c'est peut surprendre. Et après, il y a des parfums plus classiques comme l'abricot qu'on trouve souvent dans la roussette aussi, ou encore la poire. Enfin, des parfums très fruits et très fruits du verger. Alors ça, c'est une partie effectivement de l'appellation. La deuxième partie, qui n'est pas négligeable, c'est qu'on y fait des vins effervescents selon la méthode traditionnelle, et que là, on a l'obligation d'assembler deux cépages, la fameuse Altesse dont je viens de parler, mais également un autre cépage qui est assez rare, qui s'appelle la Molette. Et c'est un cépage qui n'existe quasiment que dans cette appellation. C'est pour ça que c'est singulier, que j'ai eu envie de vous en parler un petit peu.
Un coup de clé à Molette.
Exactement. C'est la bonne.
On se demandait quelle est l'affaire. Voilà. C'est David Cobold.
La clé de la cave, c'est la clé à Molette, c'est vrai. Et donc, cette Molette, qui est assez peu connue, comme handicap, entre guillemets, d'avoir un rendement relativement réduit, et surtout de ne pas avoir trop de capacité à produire de l'alcool. Donc, peut-être pas une grosse concentration. Ce qui, par les temps qui courent, est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est dans l'air du temps.
Finalement.
Oui.
Et comme on en fait en plus un vin qui est élaboré selon la méthode traditionnelle, c'est-à-dire cette fameuse double fermentation dans l'esprit champenois, et qu'on rajoute entre les deux la fameuse liqueur de tirage, donc on refait une fermentation, finalement, on arrive à monter le degré naturel par cette méthode-là. Et ça donne des vins qui sont finalement bien équilibrés, qui, in fine, font autour de 12,5 degrés, ce qui est finalement dans un bon équilibre aujourd'hui. Et ça, on obtient donc des vins effervescents qui ont un certain succès. Il faut dire que dans le coin, Bugey, le Cerdon notamment, est un vin effervescent qui est plutôt élaboré selon une méthode dite spontanée, naturelle, non pas que l'autre soit surnaturelle, mais la méthode traditionnelle, effectivement, c'est la fameuse double.
Quelques vignerons peut-être, parlé. Philippe, sympa,
oui,
à ne pas louper.
Oui, quelques vignerons qui sont donc... Il y a deux communes, il y a Corbonneau et Sessuel, c'est les deux communes qui produisent ce du vin. Alors, Molex, c'est le nom de famille, Martine et Bernard, Gérard Lambert, le domaine Varichon, le domaine de Vence ou encore le domaine de la Brune. Ce sont des vins plutôt à boire relativement jeunes, même si ça peut se conserver un petit peu.
Une bonne bouteille,
toujours.
Le prix, Philippe, ça coûte combien à peu près?
Ça coûte entre 10 et 15 euros.
D'accord.
Et pour les vins effervescents, ça a une cuvée un petit peu plus, autour d'une vingtaine d'euros. Mais l'originalité et la qualité générale est plutôt intéressante. À boire, bien sûr, frais sans être glacé. Magnifique pour l'apéritif en ce qui concerne la méthode traditionnelle et super intéressante avec tous les poissons des lacs et des rivières savoyards avec le blanc tranquille.
Merci beaucoup Philippe Arbac, merci à tous. Dans un instant, on se retrouve au bar à vin caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine avec un sujet improbable à bord de Invino Sud Radio, l'eau.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour d'Invino Sud Radio chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Thibaut Lamarque. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Alors paradoxalement, on va parler d'eau. C'est quand même bizarre quand on est à bord de Invino, mais on ne l'a jamais fait, mais on va le faire grâce à vous. Thibaut, un petit mot sur votre parcours. Vous avez débuté chez Veolia Transport à Melbourne et en 2009, vous avez intégré une société Alter Eco dans quoi ? Tout ce qui est équitable, c'est ça ?
Le bio et l'équitable, tout à fait.
Ça vous a toujours branché ?
En tout cas, je suis rentré chez Veolia pour l'eau, parce que je pense que l'eau, c'est le pétrole du futur. Et puis chez Alter Eco, parce que j'avais besoin de donner du sens dans une PME engagée sur le bio et l'équitable.
Alors, vous avez créé donc en 2011 Castali. Quel est d'abord le constat et le concept ?
Le concept, c'est qu'on peut venir valoriser l'eau du robinet pour mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Donc l'année dernière, on a économisé 11 millions de bouteilles. On va en économiser 100 millions sur les 3 prochaines années, avec des machines qui permettent d'embouteiller l'eau du robinet chez nos clients.
Donc vous avez déposé un brevet, je suppose ?
On a déposé un brevet, des dessins et modèles, des cartes électroniques, enfin il y a beaucoup de R&D.
Et qui fabrique ? C'est fabriqué en France ? C'est en plus un peu Frenchy ou pas ?
C'est complètement Frenchy, on a deux assembleurs, et donc un qui fait 80% de la production dans le nord de la France, à Neuville-en-Ferrin.
D'accord. Alors l'eau, c'est important, j'ai entendu dire que dans les années 2050, il y aurait plus de plastique que de poisson, c'est dramatique.
Quand je dis mettre fin à la folie des bouteilles en plastique, aujourd'hui, la bouteille plastique a infiltré nos vies et on a besoin de changer de modèle, on a besoin de changer de modèle de consommation, et on a besoin d'arrêter de boire des bouteilles en plastique à usage unique. Donc nous, on est une des solutions qui vient permettre aux consommateurs de garder la même expérience qu'avec une eau en bouteille, parce que finalement, c'est pas désagréable d'avoir une eau plate, une eau pétillante qui n'a pas de goût. mais sans impact sur l'environnement.
Alors justement, vous adressez donc aux particuliers, également aux professionnels, aux deux ?
Pour l'instant, on fait que du B2B.
D'accord. Et donc, vous vendez, vous louez une machine. On met de l'eau normale du robinet, c'est ça ?
L'eau, la machine est connectée au robinet.
D'accord. Et après, donc, l'eau est purifiée, quoi.
Il suffit d'appuyer sur un bouton de la très jolie machine qui a été dessinée par Helium Studio et on a eu plusieurs prix de design. Et puis, bah, c'est parti. On a de l'eau plate, fraîche, pétillante et chaude. Ou chaude.
Donc, on choisit le type d'eau qu'on peut avoir, quoi.
C'est de l'eau sur mesure.
Ouais. Et donc, ça, ça tombe jamais en panne ?
Ça tombe presque jamais en panne.
Allez, à 99,9. Et puis au niveau, donc, c'est responsable, donc il n'y a plus de plastique du tout, quoi.
Non, vraiment, là, on a un 6, on accompagne nos clients sur la diminution, ou en tout cas la réduction drastique. Et là, moi, en tant que patron engagé, je fais extrêmement attention à ce qu'on fournit à nos clients.
Oui. Et donc, ils servent cette eau dans une bouteille en verre qu'ils peuvent réutiliser.
Alors, si vous allez, par exemple, chez un client en entreprise, dans les salles de réunion, vous aurez des bouteilles en verre, mais sur les bureaux des collaborateurs, vous aurez des gourdes en verre.
Des gourdes en verre, quoi. Et alors, vous étiez venu voir les restaurateurs au début en disant « Il faut m'acheter mon principe, c'est super, parce que c'est meilleur pour le vin. »
Alors, c'était effectivement le premier marché, en tout cas le marché historique de Castalie. Aujourd'hui, on a plus de 700 restaurants, enfin hôtels et restaurants. C'est l'hôtellerie et la restauration. Et une des particularités de Castalie, c'est qu'on vient micro-filtrer donc, l'eau du robinet. On lui retire le chlore, les particules, les éventuels métaux lourds. Et dans les avantages comparatifs qu'on peut avoir avec les eaux minérales, c'est qu'on n'a pas de goût du tout. On n'est pas du tout salé par rapport à une bouteille que je vois sur la table ici. Je ne sais pas quel est votre vin préféré.
Ah, c'est forcément un collure. Non, c'est tous les vins du monde entier, là. C'est...
Bon, donc on prend votre vin préféré, que vous connaissez par cœur. Je vous fais déguster votre vin préféré avec un verre de cette eau qui s'appelle Badois, qui est très salée, et avec un verre de Castel.
Donc le palais va être impacté, c'est ça que vous voulez dire.
Le palais va être complètement impacté. Ouais.
Et alors là, votre eau, elle n'a pas de goût. Ça, c'est pas agaçant d'avoir une eau qui n'a pas de goût ?
Au contraire, non, c'est ce que recherchent nos clients dans l'hôtellerie et la restauration.
Et aujourd'hui, donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise, il est de combien ?
Alors, on communique pas sur
le chiffre d'affaires. Allez-y, on est entre nous, Radio, là.
Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 2 ans qu'on double de taille tous les ans.
D'accord.
Là, donc, on vient de recruter 25 personnes sur les 12 derniers mois.
Et capital de l'entreprise, qui sont les heureux actionnaires ? Vous êtes actionnaire, bien sûr.
Je suis majoritaire et on s'apprête à faire une belle levée de fonds d'ici la fin d'année.
Pour vous développer, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes en France également, hors de nos frontières ?
On est en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Et puis, la levée de fonds va nous aider à aller
plus vite,
sur d'autres territoires.
Ah, vous n'êtes pas le seul sur le marché, hein. Il y a d'autres procédés qui existent.
Il y a d'autres procédés. Alors, dans l'hôtellerie et la restauration, on est les plus gros. Il va y avoir de la consolidation et donc là, on aura besoin de cash pour pouvoir se positionner. Et puis, par contre, dans le secteur de l'entreprise, pour l'instant, il n'y a pas grand monde.
Merci Thibault Lamarque. Du Dessus Radio, on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler en général des appellations. Est-ce qu'il y a un goût qui est homogène ? Est-ce qu'il y a des typicités par vigneron ? État des lieux, David Cobold.
Alors, je ne parlerai pas des vignerons. Là, il peut y avoir une typicité, mais par appellation, c'est beaucoup plus compliqué. Et si on sort du système d'appellation, c'est encore plus compliqué. Si on parle d'une grande région, je ne sais pas, le sud de l'Australie ou le Pays d'Oc, où il y a de nombreux cépages et de nombreuses sous-régions, c'est très, très difficile. Alors, donc, la réponse courte à la question suivante, peut-on décrire le style d'un vin en général ? La réponse courte est non. La réponse longue avec des explications, ça va prendre un peu plus de temps. Hein, donc, je vais non pas meubler, mais essayer d'expliquer les choses. Pourquoi ? Parce qu'une appellation ou une origine géographique quelconque, si elle peut, dans certains cas, donner une tendance de profil gustatif du vin, ne donne certainement ni les nuances, ni la qualité, mot que je mets entre guillemets, bien entendu, parce que c'est perçu individuellement d'un vin. Alors, ces éléments sont le fait des producteurs, de ses moyens, de ses choix, aussi bien à la vigne que dans le chai. Et aussi, dans le cadre des appellations, des cépages autorisés ou non autorisés, il est vrai que quand on a un choix très limité, comme en Bourgogne, où quasiment c'est un seul cépage, le pinot noir ou le chardonnay pour les rouges et les blancs, c'est sûr que là, on peut commencer à cerner un certain style parce que c'est aussi un seul climat. La plupart des cas ne sont pas dans le cas de la Bourgogne. Si la gamme de cépages est très large, comme dans le Languedoc ou dans le Bordelais, on peut avoir des variations importantes de style. On a aussi des variations importantes en fonction de la parcellisation du vignoble, là où il est situé, c'est-à-dire le mésoclimat, le climat local, l'orientation, la pente, et ensuite tous les choix de la vigne au vin, non seulement dans les assemblages, mais aussi dans les dates de vendange. On va prendre Quelques exemples. Vigneron A, dans une appellation de vin rouge. Il décide de vendanger assez tôt pour conserver de la fraîcheur, de l'acidité, autrement dit, dans son vin.
C'est son choix personnel. C'est lui qui décide.
Il veut faire un vin rouge léger. OK. Il choisit de vendanger tôt pour se faire. Ensuite, il trie ses raisins parce qu'il veut privilégier la pureté du fruit, pas avoir des raisins un peu pourris qui vont altérer cette pureté, avoir des arômes nets, etc. Et puis, il va effectuer une macération plutôt courte après la fermentation, et puis mettre en bouteille après un élevage plutôt court en cuve inox ou en matière inerte. Ça peut être du béton, peu importe, mais pas de bois. Alors, là, on va décrire le vin avec un profil de vin fruité, léger, avec des tanins légers. Okay? Oui. Mais il Logique. Obéit aux règles de l'appellation. Vigneron B, il vise autre chose. Lui, il va vendanger plus tard, avec des raisins en pleine maturité, voire un peu en surmaturité. Il triera ou il ne triera pas, mais il va effectuer des macérations beaucoup plus longues, 3 semaines ou 1 mois. Il va extraire beaucoup plus de tanins et de couleurs. Il va avoir un vin plus foncé, plus tannique. Il va l'élever en bois, peut-être en bois neuf ou en bois partiellement neuf. Le profil aromatique et gustatif du vin sera totalement différent du précédent. Les deux correspondent au nombre des appellations. Donc, on ne peut pas les décrire de la même manière. On ne peut pas dire qu'il y a un vin moyen. Mmh. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un vin moyen ? C'est un vin virtuel qui n'existe pas. Il n'y a pas de vignerons moyens. Il y a des vignerons qui font des choix. Et même les vignerons qui font une gamme large, ils ont une gamme volontairement variée dans les styles pour satisfaire à différents marchés, pour être conforme à différents positionnements prix, etc., etc., etc. Et lorsqu'on essaie de dire que le Bordeaux est ceci ou les Côtes de Provence c'est cela, pour moi c'est un non-sens. Et a fortiori, si on dit que le vin australien, il est charpenté et tannique. Ben non, quel vin, de quel vin on parle ? Et de quelle région et de quel producteur ? Donc, il faut nuancer. C'est vrai que le vin, c'est une affaire complexe. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Il ne faut pas essayer de trop le simplifier. On peut décrire une appellation par ses règles, par sa situation géographique, par ses cépages, mais je prétends qu'on ne peut pas le décrire, sauf de rares cas, par le goût.
Et quelqu'un qui dit « j'aime les bandoles », par exemple. Qu'est-ce qu'il aime, la bandole ? Il aime les paysages ?
Bandole, je dirais que bandole est plus limité, d'abord dans sa topographie et sa circonscription géographique. Oui. Et en plus, il a un cépage qui domine, pour le rouge. Malheureusement, bandole, c'est maintenant 75% de rosé.
Mais restons sur le rouge, oui.
Mais restons sur le rouge, il doit être dominé par le Mourvèdre. Donc là, ça donne une certaine typicité au vin de bordeaux. Quand on a ces cas-là, et j'ai cité la Bourgogne tout à l'heure, où on a un monocépage quasiment, là on peut parler d'une certaine typicité. Mais ces cas-là, pour moi, sont des exceptions et pas la règle.
Très bien. Philippe Forbach, Florence, on réagit au propos de David. Oui. C'est très intéressant, hein, parce que j'aime les Saint-Emilion. Ok, bon, qu'est-ce que tu aimes alors
ouais. C'est vrai. Néanmoins, depuis 15 ans qu'on se connaît, chaque semaine, je vous parle d'une appellation, j'essaye de faire une synthèse.
Oui, donc alors justement, ça fait 15 ans, Philippe, on n'ose pas vous le dire.
C'est gentil de voir...
Je n'ai pas dit que tu dis que des conneries depuis 15 ans, Philippe.
Monsieur Cobold, non. D'abord, je parle effectivement de façon factuelle de l'appellation, et ensuite, on est obligé quand même de donner une tendance. Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec David, qui disait les vins australiens, on ne peut pas dire, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Le territoire est beaucoup trop grand et les styles sont trop diversifiés. Par contre, quand on se rapproche effectivement d'une appellation, on peut quand même sortir une certaine tendance en étant prudent sur le fait qu'on puisse trouver beaucoup d'autres types de vins. Et c'est un peu la difficulté des appellations d'origine contrôlée aujourd'hui. Pour pouvoir labelliser les vins AOC, par exemple en France, ils passent le test d'une dégustation. Et finalement, on juge de la qualité, des défauts, éventuellement, ça rentre dans les critères de qualité, et de la typicité. Et là, il y a tout qui rentre en ligne de compte. Oui. Le type de couleur, avec un gradient, voilà. Et on essaye
mais
de faire...
Pour moi, la typicité, je suis désolé, le mot typicité ne veut rien dire.
Voilà. Mais néanmoins, que ça soit identifiable. Voilà, donc c'est très compliqué. Donc on essaie, nous sommeliers, quand les gens nous demandent qu'est-ce que vous aimez, etc., il faut qu'on essaie d'avoir une tendance de savoir vers quel type de vin les amener.
En fonction des goûts des personnes.
Alors,
qui
effectivement, ce que je rejoins bien entendu de ce que dit David, c'est que c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, il faut aller vers plus de précision. Parce qu'au sein d'une même appellation, Bandol est un bon exemple, mais Bandol est 7 communes. On commence à Olioule, avec des terres rouges, argileuses, etc., le fameux terre brune, jusque dans des endroits où il n'y a pas du tout le même type de terroir, plus calcaire, plus en altitude,
Florence,
plus de
la mer, etc.
Pour avoir été caviste, effectivement, je me retrouvais face à des gens qui me disaient « bon, ben, je veux un petit Beaujolais, léger ». Non, ils ne sont pas que légers. Il y a aussi des Beaujolais de garde.
Ça, c'est déjà une indication du style qu'ils recherchent. C'est-à-dire un petit Beaujolais léger, ce n'est pas un Morgan ou un moulin à vent.
Ils veulent aller vers des Beaujolais parce que tous sont légers. C'est ce qu'ils ont dans leur esprit.
Oui, c'est quoi un vin léger?
Et donc, je trouve qu'il est important d'initier les gens, quoi, d'expliquer. Ce qui se passe.
Et léger, souvent, quand on est chez un caviste, ça veut dire aussi pas très cher. Quoi. C'est léger.
Oui, léger, c'est pas très cher. Non, mais c'est pas, c'est pas très cher, c'est plutôt petit, non?
Oui, c'est petit, léger, pas
petit,
trop cher.
Petit, léger, là, c'est vraiment.
Bon, allez, vous êtes tous grands. Merci David Cobol, merci à vous Florence, Philippe et Thibault Lamarque. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. On recevra le fondateur de Vignovalle. On parlera du duché d'Uzès, de bouteilles et du succès mondial des verres Riedel. D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.